Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. C'est au secteur de l'édition qu'est consacrée cette émission au fil des pages pour évoquer la situation actuelle de l'édition, à la fois son dynamisme et ses difficultés. Et j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Michel Prigent. Vous êtes actuellement président du directoire des PUF. Mais vous êtes au PUF depuis très longtemps, 1974 ?
Tout à fait, bonjour.
Bonjour monsieur. Vous jouez un grand rôle, non seulement parce que vous êtes à la tête d'une grande maison d'édition, mais aussi parce que vous vous impliquez beaucoup dans le monde de l'édition. Vous participez aux organisations professionnelles. Vous avez été président du groupe des éditeurs des sciences humaines et sociales, membre du bureau du syndicat national de l'édition et actuellement vous êtes administrateur du cercle de la librairie. Est-ce que c'est important pour vous de ne pas jouer en solitaire, mais en solidaire avec les autres membres de la profession ?
C'est non seulement important, mais c'est essentiel étant donné, ça l'a toujours été, mais ça l'est de plus en plus étant donné que quelles que soient les configurations capitalistiques ou opérationnelles des maisons, quels que soient les livres qu'on publie, des bandes dessinées, ce qui est loin des PUF, des thèses de philosophie, ce qui est plus près des PUF, les problèmes au fond sont à peu près les mêmes, qu'ils soient de rentabilité financière, d'organisation de la distribution, on y reviendra sûrement.
De prix aussi,
de prix,
du
d'évolution
livre,
des technologies, effectivement, de maintien et du respect du prix unique du livre. Donc les métiers sont différents, les tirages vont du simple au X multiple, mais au fond, plus nous sommes ensemble pour défendre les différentes formes de l'écrit et les intérêts communs des auteurs, des éditeurs, du public et des libraires ainsi que des bibliothécaires, mieux on se porte. Il n'y aurait rien de pire que de croire qu'un esprit subtil se tirerait d'affaire tout seul en tournant le dos à ce que font les autres.
Michel Prigent, on pourrait dire, si on voulait tracer une sorte de panorama de l'édition, qu'entre les années 30 et les années 80, on avait prédit le déclin de l'édition, plus personne n'allait lire un livre. C'est tout de même pas ce qui est arrivé, Dieu merci, mais on prévoyait le déclin de l'écrit. Et puis après, on a vu que les éditeurs avaient réagi, sorti de nouvelles publications, inventorié de nouveaux secteurs, fabriqué d'autres choses. Et dans les années 2000, on peut dire que l'édition a marqué un sursaut, elle ne se portait pas si mal que cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque d'une édition sans éditeur ou est-ce que c'est une chose, que c'est un épouvantail qu'on agite devant nous ?
D'abord, c'est une excellente formule d'un certain nombre de très grands éditeurs, outre-Atlantique et en France. Donc, vu la notoriété de ceux qui ont inventé la phrase, il ne s'agit pas simplement de les saluer, mais de dire que ça reste effectivement un risque qui n'est pas qu'un risque en filigrane. Il est exact qu'on nous avait annoncé la mort du livre et d'ailleurs, je me souviens d'un salon du livre où le président Serge Hérolle avait plaidé quelquefois contre certains confrères pour la présence de la technologie numérique à l'intérieur du salon du livre, entre autres les fameux e-books et tous les opérateurs, toutes les start-up de l'Internet, d'ailleurs de la bulle Internet, on l'a constaté après, qui s'étaient manifestées et étaient présentes. Et il était excellent de voir que les deux formes pouvaient cohabiter et que des difficultés apparaissaient peut-être. Il reste, pour être précis et récent, l'année dernière n'a pas été très bonne en termes de niveau d'activité et que l'année actuelle ne se présente pas a priori sous les meilleurs auspices. Il reste aussi que malgré des difficultés qui ne sont pas que technologiques, qui sont globalement de consommation, de comportement culturel, d'apprentissage de la lecture à l'école et d'approfondissement de la lecture à l'université. Tout cela finit par avoir de l'impact au fur et à mesure que les générations nouvelles formées plus ou moins bien arrivent évidemment à l'âge adulte. Tout cela constitue un ensemble réel de difficultés auxquelles vous avez entièrement raison. La profession résiste et elle fait face avec des formes d'organisation très différentes. On a pour habitude de nous enterrer de temps en temps. On enterre aussi de temps en temps des grandes disciplines ou des grands auteurs. Chacun sait que les grands auteurs passent de temps en temps au purgatoire. Il y a des périodes de purgatoire. C'est fait, comme chacun sait, pour améliorer les choses. Mais la bataille reste toujours très difficile.
Et quotidienne. Alors, on entend dire l'édition produit trop. Est-ce votre avis? Et si ça n'est pas votre avis, quels avantages trouvez-vous à ce que les éditeurs produisent tout de même de plus en plus? Il y a de plus en plus de production tout de même.
Il y a en effet de plus en plus de titres. Le nombre de nouveautés augmente considérablement. En même temps, d'ailleurs, c'est très net sur certains mois, quand on consulte Livre Hebdo, qui est la référence interprofessionnelle, on voit de temps en temps, mois X ou Y, disons des deux dernières années, nombre de titres produits plus 4, plus 8, voire jusqu'à plus 11%, chiffre d'affaires plus 1, voire moins 2. Donc, il y a une corrélation très exacte, je dis bien une corrélation entre la surproduction en nombre de titres et le chiffre d'affaires. Il y a une non moins exacte corrélation entre la surproduction et la rentabilité, car surproduction par l'éditeur peut aussi vouloir dire techniquement surmise en place, donc excessive mise en place en librairie par les distributeurs. Encore faut-il que le marché, c'est-à-dire les lecteurs, réagissent favorablement, donc que les retours n'explosent pas, que le phénomène qui permet au libraire, quand il ne vend pas un livre, qui est la base de la profession, de le retourner au distributeur au bout d'un certain temps, ne détériore pas complètement le compte de résultats. Et en ce qui nous concerne, en tout cas, nous avons depuis 2000 à peu près baissé globalement notre production au nombre de titres d'environ 20%. De même qu'en essayant de réduire quelquefois les tirages, ce qu'on peut faire technologiquement. Et il me paraît très dangereux de pallier une éventuelle absence de lecteurs ou une éventuelle absence d'intérêt par une surproduction, le corollaire étant nécessairement un contrôle moindre sur les manuscrits, donc une possible baisse de la qualité. J'ai eu la bonté de ne pas dire probable baisse de la qualité.
J'ai remarqué en effet que vous étiez très prudent. Quelques chiffres pour souligner vos propos. En 1980, l'édition française, c'était 12 000 titres à peu près. En 1998, 27 000 titres. Déjà, il y a un palier de franchi. Et en 2003, 65 700 titres. Là, on voit bien que là, il y a quand même une production. Donc, Michel Prigent, l'édition produit trop.
À mon avis, et par rapport au secteur auquel j'appartiens, qui est l'édition universitaire, l'édition savante, probablement oui. Et de ce fait, d'ailleurs, la logique de surproduction peut être une logique industrielle, soit d'imprimeur, soit de distributeur, donc une logique de logistique ou une logique de fabrication. Mais un éditeur, c'est un industriel de la culture, donc il doit conserver, à mon sens, la maîtrise de l'ensemble des processus, donc éviter de produire trop. Il y a deux manières de produire trop. Un, trop de titres, et deux, des tirages trop élevés.
Est-ce que là, il y a un changement? Est-ce qu'on produit avec des tirages moindres? C'est-à-dire, quel est le tirage moyen d'un livre? Alors, différentes sortes de livres, bien sûr.
Globalement, alors évidemment, si on met à part la logique des best-sellers, mais d'ailleurs, un best-seller n'est pas toujours un best-seller annoncé, donc des livres peuvent devenir des best-sellers et ont des points de départ qui sont relativement raisonnables. Je me souviens d'un des plus importants de l'ensemble de l'édition française au plan intellectuel et au plan tout court de la lecture, qui est Le Petit Traité des Grandes Vertus d'André Comte-Sponville. Oui. Il a finalement, édition étrangère comprise, dépassé 350 000 exemplaires. On n'a pas tiré 350 000 un lundi matin à 9h15. On a progressivement monter les tirages, donc il y a bien des cumuls, il y a aussi des best-sellers qui vont au-delà de ce qu'on pensait parce qu'on ne les avait pas conçus comme tels. Il y a ceux qui sont ensuite conçus et programmés comme tels et qui en général, heureusement pour leurs éditeurs et leurs auteurs, marchent. Et puis il y a l'adaptation des tirages. Il est difficile effectivement de parler de tirage moyen.
Oui, parce qu'il y a des genres différents.
Il y a des gens très différents. Ce qui est certain en tout cas est dans le secteur des sciences humaines ou universitaires, le critère par exemple, qui avait été donné sur les livres qu'on peut qualifier d'innovation intellectuelle, c'était celui de Sophie Barluet dans le rapport qu'elle avait fait pour le Centre National du Livre et que nous avons publié dans Quadrige. Ce sont des livres qu'elle appelle des livres raison, c'est un très joli mot, c'est une très belle innovation intellectuelle. Et le chiffre qu'elle donnait, qui n'a pas été contesté, est de l'ordre de 600. Donc des ouvrages difficiles peuvent partir, donc être publiés pour la première édition entre 600 et 1200. Et en ce qui concerne les PUF, un très grand auteur comme Bergson, Freud ou Durkheim peut être régulièrement réimprimé à 5 ou 10 000 et un grand manuel peut avoir, ou un grand dictionnaire peut avoir le même type de tirage. Mais globalement, il y a une tendance générale à la baisse du tirage, y compris par les gains technologiques de l'impression numérique et y compris pour que les entreprises d'édition puissent résister aux surcoûts de stockage et de logistique.
Absolument, puisqu'on peut réimprimer très vite, il n'y a pas la peine de tirer beaucoup au départ.
D'immobiliser des capitaux.
Absolument.
Et de stocker.
Alors, je crois que les grands secteurs de l'édition, la littérature, le pratique, l'enseignement, la jeunesse, tout ça, ça n'a pas beaucoup changé depuis 30 ans. Il y a peut-être eu la BD qui a pris un secteur important ou pas ?
La BD a évidemment pris un secteur important d'un seul coup. La jeunesse a enregistré des succès absolument considérables. On pense évidemment, entre autres, à Harry Potter. Donc, d'un seul coup, un titre, ou d'ailleurs une série de titres. C'est intéressant de voir comment on est presque à la limite de la littérature de feuilleton. On enregistre des résultats considérables, tant mieux d'ailleurs. Certains jouent les esprits chagrins ou les esthètes distingués. Ce qui est dramatique, car le très grand succès d'un livre, que ce soit Harry Potter ou Da Vinci Code ou quoi que ce soit, et je fais exprès de ne pas citer des livres de la maison d'édition à laquelle j'appartiens, c'est d'abord un succès de librairie, c'est d'abord un temps passé devant un livre, et un temps passé devant un livre, c'est un temps qui n'est pas passé devant autre chose. Donc c'est toujours évidemment un point fort, et vous avez raison, à part ça, la typologie ne bouge pas, sauf qu'on peut considérer qu'il y a une montée en puissance progressive du poche, et par les poches inédites, et par les transferts en poche d'un certain nombre de choses, dont d'ailleurs de la littérature ou de la BD, qu'on n'aurait pas vu forcément il y a 5, 10 ou 15 ans dans ce type de format.
Et puis j'ai l'impression que la mise en livre de poche est plus rapide après l'édition première qu'elle ne l'était autrefois.
Elle est plus rapide, voire dans le cas de certains ouvrages lourds, et comme nous sommes dans des enceintes académiques, je pense à ceux que dirige M. Jean Leclan, le dictionnaire de l'Antiquité, ou M. Michel Zinc, le dictionnaire du Moyen-Âge. Les dictionnaires, quelquefois, sont publiés simultanément en version reliée et en poche, ce qui fait qu'il y a une sorte de dividende immédiat de l'accumulation de savoir à des prix très compétitifs. C'est, comme vous dites, l'accélération du mouvement, et c'est un mouvement même différent des anglo-saxons qui attendent, et on est allé jusqu'à prendre le risque de faire les deux en même temps, et aucune des deux éditions n'a gêné l'autre.
Avec Michel Prigent, président du directoire des PUF, Presse universitaire de France, nous examinons la situation de l'édition. Nous nous retrouvons dans un court instant.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous revenons avec Michel Prigent à notre émission consacrée à l'édition aujourd'hui. Monsieur Prigent, est-ce que vous avez noté depuis la trentaine d'années que vous êtes fortement impliqué dans les maisons d'édition, est-ce que vous avez noté des changements au niveau des absorptions, des fusions, des créations, quelle est la situation ? Autrefois, il y avait beaucoup de maisons d'édition qui appartenaient à leurs propriétaires, j'allais dire, à leurs créateurs, à leurs fondateurs. Est-ce toujours le cas ?
Alors, il y a effectivement dans cette profession une considérable tradition familiale. Tous les ouvrages publiés sur l'histoire des maisons d'édition, y compris par le Cercle de la librairie, ou publiés par des savants et des érudits, il suffit d'ailleurs de regarder les noms, le démontrent. Avant d'être des noms d'entreprise, évidemment, Hachette, Flammarion, Gallimard, Albin Michel, etc., etc., sont des noms de personnes physiques, puis de traditions familiales qui perdurent. Donc il y avait effectivement un élément constitutif de caractère patrimonial, et même, entre guillemets, dans le cas des PUF, qui ont une raison sociale plus proche de la République elle-même que de telle ou telle famille. Je n'oublie pas que dans le symbole du quadrige, donc des quatre chevaux, l'un représente les pufs, mais les trois autres représentent Alcan, Leroux et Rieder, avec des fonds pas tout à fait négligeables, avec, dont entre autres Bergson et Freud. Et Alcan, Leroux et Rieder, c'était des éditeurs qui conduisaient des aventures patrimoniales, industrielles, culturelles. C'est évidemment un paysage qui s'est profondément transformé. Il y a eu des concentrations capitalistiques, des concentrations opérationnelles par les distributions, des modifications de certains modèles d'intégration verticale. Il fut un temps où les PUF étaient à la fois imprimeurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires. Ça paraissait comme cohérent. C'est un modèle qui maintenant n'a plus aucune signification. Aucune maison d'édition, aucun groupe, fût-il puissant, n'est construit sur ce type de modèle. Chacun a repris son métier, où il s'est recentré sur son métier, où il a externalisé celui qui n'était pas le sien. Et effectivement, il y a des mouvements d'accélération, de concentration. Je n'ai pas de commentaire particulier à dire là-dessus. D'ailleurs, il n'y a pas que l'édition où le phénomène se produise. Le seul point, c'est que pour produire certains types de livres, il faut probablement des actionnariats solides et stables. Car quand on est lancé dans des entreprises de longue durée, dans des collections de longue durée, quelle que soit la maison d'édition, il faut des durées d'investissement, des durées de rentabilité à la fois offensives dans l'ambition et prudentes dans les calculs. Ce qui fait que ce qui est dangereux, ce n'est pas la concentration, ce sont les jeux de mécano éventuellement dans un sens et dans un sens contraire.
Y a-t-il encore une place si on est jeune aujourd'hui et qu'on a envie de créer une maison d'édition? Est-ce qu'on peut le faire?
Réponse oui, et réponse oui, pas parce que ce serait un vœu pieux et qu'on se serait très bien, réponse oui, parce que ça se fait. C'est-à-dire que les éditeurs nouveaux apparaissent dans des maisons d'édition qui ont des, si je peux faire de la publicité pour certains de mes petits camarades,
mais oui,
des maisons récentes, je n'ai pas 50 noms en tête, si j'en ai 50 d'ailleurs, mais je pense à Actes Sud, ou je pense à Liana Lévy, ou je pense à d'autres acteurs. Des éditions récentes ont pris le nom ou de leur chef de file et de leur fondateur, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas en 1850, mais il se passe la même chose qu'à 150 ans, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur ou une dame qui a une idée astucieuse, qui fonde une entreprise, et tant mieux. Il y a des éditions, c'est pour ça que j'ai fait exprès de citer Actes Sud, dans ce pays très centralisé, qui ne sont pas dans la capitale, mais qui sont en province.
Il y a
une
édition
provinciale ou régionale, très très active. En particulier, tous les problèmes des petits éditeurs comptent, et certains de ces, entre guillemets, petits éditeurs, on pourrait citer Anne-Marie Métayer, etc., en plus, sont très bons, et ont régulièrement la chance de publier d'excellents ouvrages, qui sont des succès commerciaux. Donc, je dirais, un éditeur est un entrepreneur culturel, mais un entrepreneur culturel, c'est d'abord un entrepreneur. Donc, la volonté de prendre des risques existe. Et de même que faire carrière pour des jeunes dans des maisons d'édition est quelque chose de difficile. Mais après tout, ça n'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs.
Alors, si le profil des maisons d'édition a changé à cause de ces concentrations dont vous parliez, il y a un autre changement qu'on peut noter, je crois aussi, c'est celui de la distribution. Les livres étaient traditionnellement installés en librairie, et là, je crois qu'il y a tout de même, depuis 30 ans, des changements notoires.
Il y a en effet beaucoup de changements. Il y a d'abord la concentration des acteurs de la distribution. C'est d'ailleurs un corollaire presque immédiat de la surproduction. Les flux augmentent, les flux allés, c'est-à-dire l'installation des livres en librairie, je l'évoquais tout à l'heure, les flux retours, c'est-à-dire la réaction négative des libraires après la réaction elle-même négative du marché. Donc, pour faire baisser des flux, ou plus exactement le coût unitaire de chacun des éléments constitutifs des flux, il n'y a pas 50 solutions en dehors de la concentration des moyens. La concentration des distributions est un élément de concentration de l'ensemble de l'édition. Et puis il y a, comme vous le dites, non seulement les acteurs traditionnels de la librairie, mais des acteurs nouveaux qui sont intervenus au fil des années, pas forcément dans le domaine culturel, mais à partir du domaine culturel, il y a bien entendu l'entrée en activité depuis quelques années des grands acteurs de la librairie en ligne, et tout cela modifier très profondément le marché, y compris quelque chose qui préoccupe évidemment tous les éditeurs et peut-être plus particulièrement un éditeur de fonds, c'est-à-dire comment fait-on vivre, non seulement en librairie d'ailleurs, mais comment fait-on vivre tout court et d'abord en librairie, un ouvrage qui n'a pas vocation à être un feu de paille entre le 3 et le 17 août? Comment fait-on en sorte qu'il soit en place, que la presse en parle, que l'opinion réagisse et que finalement ce soit au bout de 3-4 mois qu'on sache qu'il existe. L'ennui, c'est qu'au bout de 3-4 mois, si le libraire ne l'a pas vendu, il l'a retourné, ce qui d'ailleurs ne me choque pas dans l'absolu. Donc, lui aussi dirige une entreprise.
Il fait rouler son stock, ce qui est normal
donc,
aussi.
Donc la question pour nous, c'est comment fait-on vivre le fonds et comment aide-t-on tous les libraires? C'est le rôle d'associations ou de structures comme l'ADELC. Comment aide-t-on les libraires à la fois à être très performants par l'informatisation de leur gestion et à être très ambitieux, aidés par les éditeurs et par les distributeurs à avoir un stock? Car plus effectivement on ira en librairie en trouvant moins de livres alors qu'on publie de plus en plus, plus on sera sur une contradiction qui découragera les gens. Et il n'est pas du tout certain, comme on l'affirme quelquefois un peu vite, que le marché de la librairie en ligne compenserait entre guillemets l'intégralité des pertes qu'il y aurait eu. On a bien vu ce qui s'est passé sur l'économie du disque.
Ce n'est pas tout à fait en effet le même marché, mais enfin il y a des similitudes. Parlons aussi de l'évolution du goût des lecteurs d'une certaine manière. Comment un éditeur peut-il savoir ce que le public risque d'aimer dans 2 ans, 3 ans? Parce qu'il y a certains livres qui nécessitent le temps qu'ils soient rédigés, le manuscrit, mis en forme. Enfin, il faut un investissement dans le futur. Est-ce que l'éditeur est un peu prophète comme ça? Il lit dans l'avenir?
Il lit dans l'avenir, j'espère qu'il ne lit pas dans le marc de café. J'espère qu'au sens propre et étymologique, il est prophète. Effectivement, c'est pour des éditeurs, en tout cas comme nous, le principe même de la logique de l'offre. Si nous faisions des études de marketing 10 ans avant ou 15 ans avant la publication des livres que j'évoquais tout à l'heure, le dictionnaire de l'Antiquité ou le dictionnaire du Moyen-Âge, il est évident qu'on pourrait avoir des surprises. Il y a deux pare-feux, si j'ose m'exprimer ainsi. Le premier, un éditeur a un point commun avec un couturier, c'est la notion de collection. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité du public, il y a des fidélités à des marques, il y a des fidélités à des journaux, il y a des fidélités à des styles. Après avoir fait de la publicité pour mes confrères, je vais en faire pour les couturiers. Un tailleur Chanel ou un costume Saint-Laurent, ça se reconnaît. Bon, donc il y a des pérennités de goût qui existe et pas simplement à l'intérieur des frontières ou de la France ou de la langue française, heureusement. Donc c'est un moyen d'organiser la production. Une collection comme Que sais-je, évidemment, qui dure depuis plus de 60 ans.
Combien de titres? On l'a déjà dit.
Un peu plus de 3000 et 3000. Un peu moins de 1000 disponibles. Des collections comme évidemment la Pléiade chez Gallimard, des grandes collections de références comme Garnier Flammarion, avec particulier l'achèvement remarquable des nouvelles traductions de Platon. On pourrait donner toute une série d'exemples. Sont des continuités. Le lecteur est habitué à une certaine qualité, à un certain type d'auteur, à un certain type de maquette, et il le voit sur la durée. Donc la collection sert à organiser sur la durée. La deuxième chose, vous avez raison, et vous êtes même, madame, très prudente dans les délais, parce que ça peut être 3 ans et ça peut être 10 ans. Les quelques-uns des plus grands projets, j'en ai en tête parce qu'on commémore cette année le 150e anniversaire de la naissance de Sigmund Freud. Quand les PUF se sont lancés dans le projet global de traduire d'une manière cohérente et structurée l'intégralité des textes de Sigmund Freud, c'était il y a un peu plus de 20 ans, en liaison avec Gallimard, Payot et bien entendu l'éditeur allemand de Freud. On commençait déjà à nous expliquer que la psychanalyse était bonne à placer dans les poubelles de l'histoire, selon l'expression consacrée, et que lorsque toutes les sciences nouvelles, et pas toujours scientifiques d'ailleurs, auraient réussi, la psychanalyse n'existerait plus. Donc, il fallait être fou allié pour se lancer dans les œuvres complètes de Freud. J'observe, plus de 20 ans après, que la presse médiatise d'une manière considérable la naissance de Freud. Elle n'a d'ailleurs pas tort. Que les adversaires de la psychanalyse sont très nombreux, or on ne tire pas sur une ambulance, donc c'est qu'elle se porte bien, et qu'il faut lui tirer dessus de plus en plus. Et donc je constate avec plaisir qu'à l'occasion du 150e anniversaire, on peut publier des grands textes de Freud. C'est un investissement qui aura été conduit sur près de 30 ans. Un peu à contre-courant de l'opinion. C'est un peu comme, peut-être excessif, un homme d'État n'est pas forcément celui qui suit l'opinion. Un homme politique suit l'opinion, un homme d'État essaie de servir son pays. C'est peut-être un peu la différence. Si on court derrière la dernière chose, plus ou moins à la mode, le coup de vent arrière risque de déstabiliser le bateau. Il vaut mieux regarder, un, les vents dominants, et deux, les cycles culturels, et trois, s'apercevoir que les paris sur l'offre, en général, fonctionnent convenablement, et que d'ailleurs les très grands projets des éditeurs durent et s'adaptent très bien, y compris quand ils réimpriment. On le voit bien avec la collection Quadrige, où on réimprime régulièrement les très grands textes du fonds.
Il faut dire que cette collection offre beaucoup de titres alléchants et on a envie effectivement de tous les lire. Michel Prigent, vous avez évoqué le dictionnaire de l'Antiquité, donc je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'une émission entière de Canal Académie est disponible en médiathèque avec M. Jean Leclan qui a dirigé ce dictionnaire de l'Antiquité, que vous-même, M. Prigent, vous avez dirigé l'histoire de la France littéraire. Nous avons fait une émission également disponible en médiathèque sur cet ouvrage, parce qu'il y a 3 volumes, c'est un coffret magnifique de cette histoire de la France littéraire. Vous avez évoqué le dictionnaire de l'Antiquité avec M. Michel Zinc, et nous avons plusieurs émissions avec M. Zinc aussi. Et il y a, je crois, un autre dictionnaire dont on n'a pas encore eu l'opportunité de parler, mais ça viendra, le dictionnaire de la pensée sociologique, dans lequel intervient M. Raymond Boudon.
Tout à fait.
Donc les dictionnaires, c'est tout de même un fonds important pour les PUF.
C'est un fonds important et ça a plusieurs avantages. Premièrement, c'est une logique de l'offre. Deuxièmement, c'est une logique de mobilisation des auteurs. 200, 300, 400, plus, jusqu'à 1000 auteurs se mobilisent. Ce sont des mobilisations intergénérationnelles et entre guillemets intersensibilité. Et comme on nous rebat les oreilles d'un air pleurnichard avec la crise des sciences humaines, je signale au passage que nous publierons en octobre prochain un dictionnaire des sciences humaines qui sera la synthèse de tout ce qui a été fait dans ce domaine depuis plusieurs décennies et un état des recherches les plus innovantes. L'outil dictionnaire est finalement très bien adapté à des périodes d'innovation et de changement. Après tout, c'est le modèle Diderot d'Alembert au XVIIIe siècle et on pourrait trouver plus mal.
Absolument. Merci infiniment, Michel Prigent, d'être venu partager ce moment avec nous de réflexion sur la situation de l'édition. Sur notre site internet, vous trouverez toutes les précisions concernant les ouvrages que nous avons évoqués ensemble. Et j'espère donc qu'au mois d'octobre, j'aurai le plaisir de vous inviter à nouveau pour parler de ce dictionnaire des sciences humaines qui déjà nous rend curieux.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous.